J'aime et j'écoute Radio Plus 5 sur 104.3. Et vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un peintre, Jérôme Bosch, de son vrai nom Hieronymus van Acken. Alors, Jérôme Bosch est un peintre flamand qui a soulevé bien souvent des controverses et que l'on a cherché même parfois à classer dans les peintres maudits, sataniques. Nous allons voir au cours de cette émission que Jérôme Bosch n'est pas tout à fait ce peintre qu'on cherche des fois à caractériser. Et donc, nous allons donc parcourir la vie de ce personnage. Il est né, la date exacte de sa naissance, les historiens oscillent entre 1450 et 1453. À l'époque, il n'y avait pas d'état civil comme on peut le connaître aujourd'hui. C'était plutôt le bulletin paroissial où on notait, bien sûr, non pas la date de naissance, mais la date du baptême. Et en général, compte tenu de la forte mortalité des enfants, évidemment, ils étaient souvent baptisés dans les 3 jours après la naissance. Néanmoins, on n'a pas trouvé trace de son bulletin de baptême non plus. Donc, on estime, grosso modo, donc, qu'il est né entre 1450 et 1453. Alors, il est né dans un petit village du duché du Brabant, Hertogenbosch. Il est issu d'une famille très déjà illustre et très aisée, réputée. Ce sont une famille de peintres qui sont originaires d'Aix-la-Chapelle. Et cette famille s'installe donc dans la ville de Hertogenbosch, qui est à l'époque une ville particulièrement réputée pour sa richesse, même si ce n'est pas une capitale. Ni une cité universitaire. Néanmoins, c'est une ville très riche, très réputée, à forte activité textile. Elle se situe tout au nord, l'actuelle frontière belgo-hollandaise, mais à l'époque, il n'y a pas de frontière, puisque c'était un seul ensemble, c'était les Grands Pays-Bas, qui dépendaient donc à l'époque aussi du duché de Bourgogne. Et donc, il y avait aussi une vie très très religieuse dans cette commune, puisqu'on compte quasiment 20% de la population de cette commune étaient des religieux. Il y avait énormément de couvents, de monastères, et donc on baigne vraiment là dans une ambiance particulièrement religieuse, et ce qui va marquer naturellement l'œuvre de ce grand peintre qui est Jérôme Bosch.
Scarazula Marazula, vous venez d'entendre une partition de musique médiévale de Pierre Attignan du XVIe siècle, donc l'époque de Jérôme Bosch dont nous vous parlons aujourd'hui.
Alors Jérôme Bosch, donc, il est issu d'une famille déjà de peintres. Son grand-père était déjà un peintre réputé. Il est arrivé donc dans la commune de Hertogenbosch, donc tout dans le duché du Brabant, et il a eu donc 5 enfants, dont le père de Jérôme Bosch, Antonius van Aken, qui est décédé donc en 1478. Le père de Jérôme Bosch était lui aussi déjà un peintre particulièrement réputé, et son fils n'a fait que poursuivre en fait le travail de son père et même de son grand-père. La commune où ils arrivent donc est une commune très riche. Ce n'est certes pas un siège universitaire comme Louvain ni une capitale régionale comme Anvers ou Douai. C'est une ville qui est prospère par la qualité de son textile, mais aussi par une certaine prospérité bourgeoise, et il y a de très nombreux ordres religieux dans cette commune, de nombreux monastères, des couvents. On compte à peu près 20% de la population d'ailleurs qui étaient des religieux. C'est dire que naturellement à l'époque, il faut savoir que tout était réglé par la religion, et donc il y avait de nombreuses processions, donc la vie était vraiment rythmée au rythme de la religion, si bien que tout ça, naturellement, ça a profondément marqué notre Jérôme Bosch, et à travers toute son œuvre, on voit bien qu'il y a une inspiration évidente de la religion. Alors comme il était alors de tradition à l'époque, il va bien sûr faire un tour d'Europe pour affiner son travail, un petit peu comme les compagnons du devoir. Il va se perfectionner, et cette formation va durer environ 4 années. Et il revient donc dans sa terre natale vers 1480.
Ons liefste, nog heel even, nog heel even, bij elkander, zonder woorden, bij elkaar, gelukkig zijn, zwijg maar, liefste, nee, niet praten, nu niet praten. Maar heel even, zonder woorden, bij elkander, bij elkaar, gelukkig zijn. Morgen zullen sterren vallen, uit de hemel sterren vallen. En het gras zal morgens groeien. De hele wereld staat in vuur. Niemand kan het nog verhinderen, dat alle moeders, alle kinderen, alle planten, alle dieren, tot stof en as zullen vergaan. Laat ons liefste nog heel even, nog heel even, bij elkander, zonder woorden, bij elkaar, gelukkig zijn. Zwijg maar, liefste, nee, niet praten, nu niet praten, maar heel even. Zonder woorden, bij elkander, elkaar gelukkig zijn. Morgen zal het doodstil worden, de grote stilte na de stormen. Weggevaagd zijn alle vormen. Geen bloem, geen blad dat nog beweegt. Na het splijten van atomen. Niet meer vragen, niet meer dromen. Wat er morgen nog kan komen. Want morgen, lief, is dan voorbij. Laat ons liefste nog heel even, nog heel even bij elkander zonder woorden, bij elkaar gelukkig zijn. Zwijg maar, liefst, nee, niet praten, nee, niet praten. Maar heel even, zonder woorden, bij elkander, bij elkaar, gelukkig zijn.
Mil Cols, vous interprétez Apocalypse, où il nous parle de savoir être heureux. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et nous évoquons aujourd'hui donc Jérôme Bosch. Alors Jérôme Bosch, après 4 années de formation, il se rend en particulier à Venise. À l'époque, l'Italie était avec la Flandre deux fleurons de l'art, de la peinture était très réputée. Et donc il fait là aussi un séjour pour se perfectionner. Vers 1480, il revient dans l'atelier de son père, qui est à l'époque son papa est disparu. Et que cet atelier est dirigé d'ailleurs par son frère aîné. Il épouse vers 1481 une dame, Alice van de Merveen, qui est issue de, on va dire, de la haute bourgeoisie de l'époque, qui lui permet donc à Jérôme Bosch eh bien, d'avoir une certaine aisance financière, car son épouse, elle est propriétaire de nombreuses terres, et donc il accède ainsi à un statut social particulièrement élevé. Ça lui permet naturellement d'avoir un carnet d'adresses, de se faire connaître encore davantage, et ainsi il peut adhérer à une confrérie, la confrérie Notre-Dame. Alors cette confrérie, c'était une confrérie qui s'adressait particulièrement aux personnes religieuses et qui vouait en particulier une adoration pour la Vierge Marie, Zout Lieve Vrouw. Et donc cette confrérie, bien sûr, le met en relation avec de nombreuses personnalités et permet naturellement d'avoir de nombreuses commandes de peinture, en particulier justement par les ordres religieux qui sont, je vous rappelle, très nombreux à l'époque sur le duché du Brabant et en particulier dans la commune où vit la famille Bosch. À la mort de son frère, qui décède en 1497 et qui dirige jusqu'à l'atelier familial, eh bien, c'est lui qui va prendre le relais et il va ainsi donc prospecter et aller voir jusque le gouverneur de Bruxelles, qui lui va lui commander de nombreuses œuvres. Je vous rappelle, le gouverneur de Bruxelles à l'époque, il n'est ni plus ni moins que le fils de l'empereur Maximilien d'Autriche. C'est dire le carnet d'adresses que pouvait déjà bénéficier Jérôme Bosch.
Schiff, ist es dein Wille, zu just den Pfeil der mich verwund. Willst du dann dich tot haben mich, inmitts der Tage nimm, so soll es will ich sehen. Es um, min Zung ist stumm, mag sprechen nicht ein einzig Wort. Min sind all verdorrt, darum ist es an der Zeit, mag sprechen nicht ein einzig Wort. Zu dir ich gilt. Ist es dein Will, Psychus den Pfeil, der mich verwund? Willst du dann gleich tot haben mich, inmitts der Tage min, so soll es will ich sehen.
Vous interprétez une chanson médiévale, Pestlied, le chant de la peste. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et justement, la peste était bien sûr une hantise à cette époque, c'était un véritable fléau. Et donc, bien sûr, les gens, eh bien, avaient la mort comme compagne au quotidien. Et d'ailleurs, c'était une préoccupation dans l'ensemble de l'Europe. Et nous allons ici écouter un célèbre poème de Villon, justement, où là aussi, il évoque justement cette obsession du paradis, de retrouver, bien sûr, le bonheur au-delà de la mort.
Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car ce pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle épiéça dévorée et pourrie, et nous les os devenons cendre et poudre. De notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ces frères vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxys par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas le sens rassis. Excusez-nous, puisque nous sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci. Puis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie. Plus becquetés d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie. À lui n'ayons que faire que soudre. Homme ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Alors c'est un poème épitaphe de François Villon, c'est considéré comme son chef-d'œuvre. François Villon qui était condamné à mort et il s'attend à être pendu. Alors du fond de son angoisse s'élève cette marche funèbre, ce De Profundis au rythme obsédant. Ce n'est plus le vivant qui parle, mais le mort qu'il sera demain avec ses frères du gibet. La vision dans son réalisme nous fait frissonner et nous entendons retentir en nous cet appel d'outre-tombe. En fait, la sentence fut annulée par le Parlement, mais François Villon disparaît complètement à cette date en 1463. Ainsi, la balade des pendus reste pour nous sur ce champ du cygne.
Et c'était les tableaux de Jérôme Bosch présentent justement souvent des corps de... comme une sorte de débauche. Il essaie de dénoncer justement les péchés de chair, les déviances, les abus de certains religieux, comme le fameux tableau consacré à la nef des fous. Et naturellement, ces tableaux qui sont assez choquants à l'époque, eh bien, ont laissé croire que Jérôme Bosch était plutôt... du côté des sataniques et même d'un ordre... philosophique, les adamites, qui était un mouvement religieux qui promettait en particulier l'amour libre, rejeter le mariage, voulait vivre dans le plus simple appareil, comme au temps d'Adam et Ève, et retrouver donc en fait le paradis sur terre avant de trouver le paradis dans le ciel. Donc c'était une accusation qui était faite contre Jérôme Bosch. Et d'ailleurs ici nous allons écouter un texte particulièrement intéressant concernant justement toute cette polémique à propos de Jérôme Bosch.
Jérôme Bosch, un hérétique ou un chasseur d'hérétiques? Ce texte, c'est un extrait d'un ouvrage écrit par Martin Beck sur Jérôme Bosch, était-il un hérétique ou un chasseur d'hérétiques? Cette controverse a dominé l'interprétation de Bosch pendant quelques décennies et a divisé les spécialistes de Bosch en ennemis aigris. Cette lutte fut mise en œuvre par un livre brillant et abondamment documenté, écrit par Willem Frangier. Ranger a construit sur la vie de Bosch une théorie splendide mais fragile dans laquelle il bouleversait les idées reçues sur la question. Ce qu'il devait affirmer, c'est-à-dire que Bosch a été membre d'une secte hérétique dont la liturgie était dominée par des rituels sexuels étranges, n'a jamais été démontré. On n'a trouvé aucune indication rendant plausible l'existence de cette secte à Bois-le-Duc. Ce livre explique de nombreux points encore obscurs que les diverses interprétations orthodoxes ne prennent pas en considération, si bien qu'un grand nombre de savants très renommés en sont tombés sous le charme. Charles de Tolnay déclare « Dans les analyses remarquablement détaillées de Franger, les méthodes de psychologie des profondeurs de Jung et de la sociologie moderne sont appliquées d'une manière souvent intéressante, mais la plupart du temps arbitraire. Bien que les travaux de Franger contiennent d'intéressantes observations de détail, Bosch apparaît dans son ensemble comme un interprète passif des idées de Jacob von Almengin, grand prêtre de la secte des Frères du Libre-Esprit, son prétendu protecteur, et l'originalité créatrice du maître n'est pas appréciée à sa juste valeur. » Plus loin, il écrit « Les non-initiés à l'art de Bosch comprenaient Bosch avant qu'il ne soit expliqué par les spécialistes, de même qu'un grand nombre de natures mortes et de peintures de genre du XVIIe siècle, quand elles attirent notre attention, furent comprises avant que l'on nous ait expliqué à quel passage de la Bible faisait référence telle œuvre de Jacob Katz ou tel livre de gravure allégorique. Ce sont des données intéressantes à connaître, mais complètement inutiles lorsqu'il s'agit de savoir si Jérôme Bosch, Jan Steen ou Adrian Brouwer méritent une place durable dans nos musées. » L'art est une esthétique personnifiant une signification. Cette signification est réduite par les commentateurs de Bosch à une signification conventionnelle, à l'aide d'une anatomie qui se dépouille de toute vie, le corps de langage de la peinture. Les commentateurs de Peter Bruegel, l'ancien, n'ont jamais réussi une chose pareille. Comment peut-on expliquer ça? Spécialistes et profanes de Bruegel ont la conviction profonde que Bruegel est un artiste, beaucoup plus important que Jérôme Bosch. Mais n'oublions pas que, abstraction faite de la qualité de l'œuvre de Bosch, la peinture même de Bosch demande à être regardée de près. Aussi est-il le favori par excellence des myopes, tandis que Bruegel nous maintient à distance. Bosch crée l'étouffement, tandis que Bruegel, même lorsqu'il représente des atrocités, laisse de la place pour un regard de félicité sur cette bonne terre. Le paysage, en tant que plaisir et repos pour l'œil, se manifeste dans l'œuvre de Bosch presque toujours comme un détail contre l'oppression des forces de l'enfer et du paradis, et l'on ne peut en jouir la plupart du temps qu'une fois l'œil désaccoutumé de toute chose accablante. Le livre d'art est une approche intéressante des œuvres, rendant possible la reproduction des détails. Bosch a peint des paysages magnifiques, mais on dirait que, conscient de sa faute, il les a cachés, car la perspective de l'autre vie devait toujours l'emporter sur la perspective de la vie sur terre. Parfois, Bosch montre le paysage comme à travers le trou d'une serrure, comme la perspective de quelque chose, la miséricorde, que l'on ne peut égarer, même dans la nuit la plus ténébreuse.
Et donc on a par exemple justement le tableau La mort de l'avare, où on voit donc l'avare qui est à l'heure de sa mort, qu'il est assis dans son lit, et malgré que l'heure de la fin de vie s'approche, eh bien l'avare tend la main pour essayer de rattraper une bourse d'or, et il est le combat entre l'ange et le diable, et malgré l'heure fatale, eh bien cet avare continue à persister dans son travers, et c'est ce que dénonce justement le peintre Jérôme Bosch. Il veut montrer que, eh bien, évidemment, les vices de notre vie, il y a un moment donné dans son existence, eh bien, il faut penser au passage dans l'au-delà. Donc, les tableaux de Jérôme Bosch sont loin d'être des tableaux pour faire on va dire, comme certains l'ont accusé, l'éloge du diable, mais plutôt donneur de leçons.
Thank you.
Dominique Tremblay, La danse des peuples. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous évoquons aujourd'hui un peintre, Jérôme Bosch, qui a soulevé bien sûr souvent des controverses, puisqu'il était parfois accusé de faire le jeu de Satan. Et quand on analyse bien sûr son œuvre, on est loin de cette condamnation, puisque lui-même faisait partie d'une confrérie, la confrérie Notre-Dame, et il y avait dans l'époque, il faut bien situer bien sûr l'atmosphère de l'époque, hein, où l'Église était omniprésente, et puis il y avait les gens, la mortalité est très importante, et l'obsession c'était bien sûr de pouvoir être au paradis, donc le jugement dernier qui fait l'objet d'ailleurs d'un tableau particulièrement important chez Jérôme Bosch. Il nous montre justement tous le péché, la folie qui condamne les hommes à l'enfer s'ils ne font pas pénitence. Et donc en plus, il y avait de nombreuses les catastrophes, les inondations, la peste en particulier, étaient considérées à l'époque comme des punitions envoyées par Dieu pour que les hommes, naturellement, retrouvent le droit chemin pour aller au paradis. Et ça, à travers toute l'œuvre de Jérôme Bosch, eh bien, on retrouve il dénonce les travers des hommes, les abus, le péché de chair, etc. Et donc, ces tableaux sont plus des tableaux pour, éduquer les gens pour qu'ils puissent retrouver le droit chemin. Et d'ailleurs, après sa mort, un roi, le Philippe II d'Espagne, qui est le fils de Charles Quint, qui est un prince particulièrement catholique, ne s'y trompe pas, puisqu'il a acheté de très nombreuses œuvres de Jérôme Bosch. Et d'ailleurs, c'est certainement à Madrid que l'on trouve le plus grand nombre des œuvres de ce peintre de notre région flamande.
Zoveel mooie lieve woorden schreef je in het warme zand. Zwem met al je dromen naar de overkant. Zo verliefd op waar ik hoorde, hals over kop van toen begon. Hebben wij nu afspraak aan de horizon? Me walsen door de dagen, je laat me zweven door het heelal. Jij geeft mij een nieuwe dag, een nieuwe dag. Zoveel om van te houden, ik kom graag met je mee. Vraag je me voor eeuwig, dan zeg ik geen nee. Ik durf de sprong nu weg te wagen, dicht bij jou voel ik me vrij. Alsof alles kan met jou hier dicht.
Anyway.
Dana Winner, vous interprétez Nouveau d'art, une nouvelle journée. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande sur Radio Plus 104.3. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet de l'émission Jérôme Bosch, dont nous avons déjà parlé. Et pour poursuivre, voici un nouvel extrait du livre écrit par Martin Beck sur Jérôme Bosch. À travers la nuit de l'âme. Le voyage de Jérôme Bosch à travers la nuit de l'âme, déjà décrit par Johannes van het Kruis, a quelque chose d'une recherche systématique d'un domaine interdit que l'Église, elle aussi, examinait avec défiance. C'est pourquoi il est tout à fait imaginable que Bosch ait essayé de légitimer ce voyage interdit en traduisant le langage inconnu, parlé dans ces contrées, dans une langue inoffensive, faite de proverbes, de folklore, de récits du voyage du pèlerin et de variantes populaires de la visite guidée de Dante dans l'enfer des visions de Tundal. Les symboles connus que l'on voit intégrés dans les visions de Bosch ressemblent plutôt à un emballage, un voile, visant à soustraire les véritables symboles aux yeux des simples croyants et des inquisiteurs à la vue bornée.
Donc, on voit bien que Jérôme Bosch donc, en fait, dénonce les dérives des hommes et se détourne de Dieu pour le seul plaisir de la chair. Plusieurs œuvres, d'ailleurs le chariot à foin en particulier, dénoncent justement cette dérive des humains pour la débauche, les plaisirs faciles, les plaisirs de la chair. Et lui, en tant que religieux, puisqu'il a une profonde âme religieuse, il essaie d'attirer l'attention des gens pour repartir sur le bon chemin, comme on dit. L'œuvre donc de Jérôme Bosch, bien sûr, dérange. Elle montre des scènes terribles où on voit des hommes attachés à leurs instruments de musique, des bêtes horribles, dévorant des êtres humains, de véritables cauchemars, et tout ça donc pour mettre bien sûr ses concitoyens en alerte pour qu'ils puissent retrouver bien sûr simplement le paradis qui est promis par l'Église à l'époque. Jérôme Bosch va mourir en 1516 et on pense qu'il est décédé suite à une épidémie de peste. Voilà, c'était la vie de Jérôme Bosch. Alors, je peux que vous inviter, bien sûr, à découvrir les nombreux tableaux. C'est vrai qu'ils sont assez effrayants. D'ailleurs, il y avait un groupe à l'époque, Deep Purple, qui en avait fait, sa plaquette. Hein, donc, c'était quand même encore aujourd'hui, ce peintre que l'on dit parfois maudit, il est toujours d'actualité. L'émission touche à sa fin. Marie-Jo a un petit message à donner à propos donc de la fête de la communauté flamande qui a lieu donc le 11 juillet. Donc c'est tout proche et il ne faut pas hésiter donc bien sûr à célébrer donc la fête de la communauté flamande. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.
Waar komen ze vandaan? Hoera, daar zijn ze weer, huppelend door de vroege lente. Ze doen alsof ze mij niet zien, geheel volgens de regels van een spel. Van alles op en neer en een goedgezinde wind toont mij wat zij niet wouden laten zien en dan. Zie ik natuurlijk wel. Zij hebben gezien dat ik het heb gezien. En ze lachen omdat ik het zie. Dat zij het zien dat ik het heb gezien. Lieve meisjes, waar komen ze vandaan? Slaap. gehad. Maakte blij een jaar te samen met hun nieuwe kleedjes uit de kast. Hoofden draaien om, meestal mannen, soms een vrouw. Opvallend onbeleefd bijna, maar ja, zo ligt het spel al even vast. Nieuwe meisjes, waar komen ze vandaan? Nieuwe meisjes, zie ze gaan, zie ze staan.
Evgeny, vous interprétez New Meisjes, les nouvelles filles. Vous êtes à l'écoute de leur Flamande, émission qui se termine. Et nous allons terminer pour commémorer en fait le 11 juillet 1302, commémorer la fête de la communauté flamande qui est du 11 juillet. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine.
En vreselijk voor hem op.